Selon 5 agences des Nations Unies, la faim dans le monde, en régression constante depuis plus d'une décennie, affiche une nouvelle tendance à la hausse. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le Fonds international de développement agricole, le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé ont formulé des déclarations conjointes à l'occasion de la publication de la nouvelle édition de l'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Le rapport indique que quelque 815 millions de personnes, soit 11% de la population mondiale, souffraient de la faim en 2016. Il s'agit d'une hausse de 38 millions de personnes par rapport à l'année précédente. Le rapport révèle également que de nombreuses formes de malnutrition menacent la santé de millions de personnes dans le monde. Nathalie Trouba est fonctionnaire au sein de l'équipe en charge des statistiques de la sécurité alimentaire et de la nutrition au siège de la FAO. Elle nous en dit plus sur ce rapport. Madame Trouba, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi observe-t-on une hausse du nombre de personnes souffrant de la faim ?
On a d'abord des nouvelles estimations sur les bilans alimentaires. Pour de nombreux pays, ils pointent vers une réduction des disponibilités alimentaires et des augmentations de prix, spécialement dans les pays qui ont été affectés par des phénomènes climatiques qui ont été liés à El Niño et La Niña. Et ça peut s'observer essentiellement pour l'Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud-Est. Ajouté à cela, on a aussi des conflits qui ont augmenté depuis ces 10 dernières années. Et ces conflits ont eu lieu effectivement dans des zones qui sont atteintes par l'insécurité alimentaire. Et une grande partie de la violence a lieu aussi dans des zones rurales, donc affectées la production agricole. Et cette augmentation des conflits, lorsqu'elle est aussi accompagnée de phénomènes climatiques comme des sécheresses, et dans des pays où les capacités de réponse sont assez limitées, peuvent provoquer des crises alimentaires. Sur les 815 millions de personnes sous-alimentées, 489 proviennent de pays caractérisés par des conflits qui sont prolongés et des institutions fragiles. Ensuite, on a des conditions de sécurité alimentaire qui ont aussi empiré dans des pays où les contextes sont relativement pacifiques, mais qui ont fait face à des ralentissements économique et en même temps l'accès à la nourriture des ménages a été contraint par la hausse des prix et aussi une réduction des systèmes de protection sociale dont ils bénéficiaient.
Quelles sont les formes de malnutrition discutées dans le rapport ?
Cette année est une année très importante parce qu'il marque le début du processus de suivi du progrès vers l'achèvement d'un monde libéré de la faim et de malnutrition, toutes les formes de malnutrition, d'ici à 2030. Et cet objectif est un objectif global qui a été fixé dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Donc, différents indicateurs de malnutrition sont analysés dans le rapport. Parmi les plus importants, on a le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, quand les enfants sont trop petits pour leur âge, ils présentent un risque plus élevé de maladie. En 2016, environ 22% des enfants présentaient un retard de croissance. Ensuite, l'émaciation est un autre phénomène. L'émaciation des enfants de moins de 5 ans est aussi un indicateur de malnutrition qui est assez important. Et des enfants qui sont trop maigres pour leur taille présentent un risque élevé de maladie ou de mort et ils requièrent vraiment un traitement urgent. En 2016, plus de 7% des enfants de moins de 5 ans étaient émaciés. Ensuite, l'excès pondéral aussi chez les enfants de moins de 5 ans, c'est aussi un autre phénomène qui est important et aussi en augmentation. Les enfants qui présentent un excès pondéral ont un risque plus élevé, devenir obèse ou développer des maladies qui sont non transmissibles et qui sont liées aux troubles de l'alimentation. Globalement, on compte environ 6% d'enfants qui présentent un excès pondéral. Et finalement, l'obésité parmi les adultes est aussi un phénomène en constante augmentation. Les adultes obèses vont présenter un risque majeur de développer des maladies non transmissibles, y compris des maladies cardiovasculaires, des cancers ou développer des diabètes. Et entre 80 et 2014, la prévalence globale a plus que doublé. 13% de la population des adultes est obèse.
Les populations touchées vivent-elles principalement dans les zones de conflit ?
Les populations qui vivent dans les zones de conflit sont directement et très sévèrement touchées parce que beaucoup de ces conflits ont lieu dans des zones rurales qui vont affecter l'agriculture et les moyens d'existence des populations les plus démunies. Les conflits et la violence vont conduire à la réduction parfois de stocks alimentaires. Ils peuvent aussi amener les personnes à migrer, peuvent provoquer aussi des maladies, parfois même aussi la mort de personnes. Ensuite, il peut aussi y avoir des impacts indirects de ces conflits quand ils provoquent des dysfonctionnements au niveau des marchés ou des systèmes alimentaires. Donc ces dysfonctionnements vont créer des augmentations de prix, une diminution du pouvoir d'achat des ménages, qui vont aussi avoir des difficultés à accéder à de l'eau potable ou à des sources d'énergie pour cuisiner leurs aliments. Et puis finalement, les conflits aussi peuvent créer des déplacements de population. Donc ça va créer des phénomènes d'insécurité alimentaire parmi ces populations déplacées, mais aussi dans les pays ou les communautés qui accueillent ces flux migratoires. Et actuellement, on compte une personne sur 113 qui est soit déplacée à l'intérieur de son pays, un réfugié ou un demandeur d'asile.
Qu'attend-on de la communauté internationale face à ces problèmes grandissants ?
Si on ignore ces signaux, si on ne fait rien, il est évident que nous n'arriverons pas à éliminer la faim d'ici 2030. Il faudra augmenter les investissements, il faut un engagement politique beaucoup plus fort, donc ça c'est une condition fondamentale, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que les pays puissent traduire leur plaidoyer en actions concrètes, là où les populations sont en situation de nécessité. Et puis, assurer des sociétés pacifiques, où nul n'est laissé pour compte, est une des conditions essentielles pour atteindre cet objectif. Le rapport de cette année fournit aussi quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre. Donc, par exemple, on pourrait essayer d'anticiper les conflits et essayer d'intervenir de manière opportune. Il faudrait effectuer des investissements aussi qui pourraient permettre d'aider à construire la résilience aux conflits. Il faut penser, il faut investir et il faut agir sur le long terme. Il faut aussi essayer de mettre en œuvre des interventions qui vont être intégrées et qui vont aussi associer tous les acteurs en matière d'insécurité alimentaire et tous les secteurs. Et puis finalement, construire la résilience au travers d'interventions en matière d'action humanitaire ou de paix ou de développement.
Je vous remercie, Madame Trouba.
Merci.